Bonjour et bienvenue dans ce podcast Journalisme de guerre, les coulisses. Je m'appelle Lucie Van Delaine et je vous emmène à la rencontre de 6 journalistes. Tous travaillent pour des rédactions belges et sont partis en Ukraine, à Kiev, Lviv ou Boutcha. Ils ont rendu la parole aux citoyens qui vivent la guerre, mais aujourd'hui, c'est eux qui se dévoilent et révèlent l'arrière du décor.
C'est quoi la réalité d'un journaliste de guerre?
Comment ne pas se laisser envahir par la guerre?
Les journalistes sont-ils influencés?
Et l'info, ils la choisissent comment?
Écris-moi la guerre.
C'est dans ce bureau anonymisé des services de renseignement que le général Vadim Skibitsky nous reçoit. Depuis le début de la guerre, le numéro 2 des services secrets ukrainiens analyse l'ennemi russe.
Sur la ligne de front, ils essayent de faire sauter nos positions en utilisant de petites équipes d'assaut, de petits groupes d'infanterie à pied sur le terrain. Ils sont soutenus par l'artillerie et par leur appui aérien.
À l'image, on aperçoit Valentin Dauchaud, journaliste au service international du journal La Libre Belgique. Ce jour-là, en Ukraine, il interview le numéro 2 des services secrets ukrainiens. Rendez-vous quelques mois plus tard dans un café presse de Bruxelles. Valentin Dauchaud est décrit par son journal comme journaliste expert du conflit russo-ukrainien, un poste qui ne veut rien dire, selon lui. Particulièrement lorsqu'il raconte sa seule expérience en Ukraine avec les moyens du bord.
Alors ça a été un peu du bricolage. Le problème de ces voyages, c'est toujours le même. Dans le contexte journalistique actuel, il y a d'abord la contrainte financière. C'est cher d'envoyer quelqu'un à l'étranger, c'est cher d'envoyer quelqu'un couvrir une guerre. Donc, ça l'est moins si on t'envoie à Lviv ou à Kiev que si on t'envoie sur le front pour des raisons d'assurance et d'organisation. Donc on s'est greffé à une équipe qui partait sur place. Alors, ce n'est pas un voyage officiel ni un voyage ministériel. On est parti avec un parlementaire qui a une grande expérience de l'Ukraine, qui lui-même partait en fait avec des Ukrainiens de Belgique qui envoyaient des biens humanitaires en Ukraine. Donc, concrètement, dans ce cas-ci, une ambulance. Et donc, on a fait une équipe conjointe de moi-même et l'un de mes collègues de la télévision, LN24. On est parti sur place avec ce parlementaire bruxellois et deux Ukrainiennes réfugiées en Belgique qui retournaient sur place dans une perspective humanitaire. Alors ça peut être dangereux, comme c'est dangereux quand tu pars avec un ministre ou avec l'armée, parce qu'il faut mettre des balises tout de suite. Donc là, on n'est pas là. On n'a publié aucun article sur le parlementaire. On a publié un passage sur l'action de cette ONG, mais sur un total de 7 double pages. Donc le but, c'est de dire, on vient, on trouve un accord pour partager les ressources et les frais, et puis on arrive sur place. On avait défini à l'avance un certain nombre de choses qu'on voulait voir. Donc on voulait faire un reportage d'ambiance à Kiev pour les 2 ans, parler à des personnes qui viennent rendre hommage à leurs proches morts sur le terrain. On savait qu'à Odessa, on voulait faire un reportage sur les alertes, sur la proximité du front, sur les attaques de drones. Donc on balise un petit peu tout ça et les personnes, cette organisation ukrainienne avec laquelle on voyageait, nous servait de fixeur et de traducteur. Donc c'est un peu du bricolage parce qu'il faut arriver à faire avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, ça s'est vraiment bien passé parce qu'il n'y avait aucune volonté de leur part de nous donner une vision ou une autre.
Une préparation qui semble bien rodée sur papier. Et pourtant, ce n'est pas l'expertise qu'il a développée en Belgique qui l'aidera sur le terrain. En Ukraine, le meilleur article de Valentin Dauchaud n'est ni préparé, ni vérifié, ni expertisé, juste sincère.
Des meilleures histoires que moi j'ai pu raconter, c'était mon premier papier, je pense d'ailleurs. C'est bêtement, on se retrouve dans une voiture, on fait le trajet entre Lviv et Odessa en voiture. C'est un trajet qui prend, je pense que c'est 8 ou 9 heures. Et ce qui est amusant dans ce que tu es un peu bricolé, c'est que tu te retrouves dans des situations absurdes. C'est-à-dire que t'es pas tout le temps dans des hôtels. Là, on a dormi chez un soldat ukrainien avec sa famille. Le lendemain, c'est un de ses potes qui nous emmenait au front. Alors tout ça n'est pas très professionnel, mais ça donne un accès assez dingue à la population locale. Quoi. Et donc ce jeune Ukrainien d'une vingtaine d'années qui nous conduisait à Odessa pendant ces 8-9 heures de trajet a commencé à partager son histoire. C'est long, un trajet en voiture. Donc il commence à raconter ce qui s'est passé et il nous raconte que son frère, qui était au front, dans un des bataillons les plus exposés, est mort 2 ou 3 mois plus tôt. Et donc le gars est là, il nous conduit, on est à l'arrière dans la voiture, il y a la traductrice qui se trouve à l'avant sur le siège passager, et il nous raconte pendant 2 ou 3 heures, en détail, tout ce qui s'est passé autour de la mort de son frère. Comment ils l'ont appris, comment lui a attendu avant de l'annoncer à sa mère, comment ils n'ont pas pu récupérer le corps parce qu'il est tombé en territoire occupé, donc russe, que c'était beaucoup trop dangereux pour aller le récupérer. Et donc ça te permet de parler pendant des heures et des heures et des heures avec les gens et d'avoir des témoignages comme ça.
Des témoignages pris sur le vif, sans calcul, sans angle, juste de l'humain, pour illustrer les chiffres, les experts et les dépêches que les journalistes comme Valentin Dauchaud traitent tous les jours depuis Bruxelles. En Ukraine, le contexte de guerre rend à la presse écrite sa simplicité et même parfois sa facilité.
Moi, j'allais en Ukraine pour la presse écrite. J'étais accompagné d'un collègue qui venait pour la télévision, LN24, avec en gros un selfie stick et un smartphone. Moi, j'étais très satisfait des 8 jours, lui pas du tout, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes besoins. Moi, je pouvais parler à n'importe qui, récolter des témoignages même dans une bagnole sur un trajet de 8 heures, ou dans les nombreuses zones où on ne pouvait pas filmer. Donc, typiquement, on est dans un hôpital en banlieue d'Odessa, parler à des infirmiers qui racontaient leur traumatisme et les profils des soldats qu'ils devaient soigner. Ils ne voulaient pas être filmés. Donc moi, j'ai eu 4 ou 5 témoignages incroyable de sincérité, de justesse et de sans filtre, on va dire. Mon collègue qui devait récolter l'image, il avait rien du tout. On a couvert la guerre sans voir la guerre. Donc on était à Odessa, à Kiev, à Lviv. Il y a énormément de choses qui se passent, mais on n'a pas de, il y a pas de bombardement, il n'y a pas de colonne de fumée, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de gens blessés. Moi, ça pose pas de problème. Je peux la raconter à travers les témoignages. Mon collègue qui doit filmer, il a rien. Donc comment il contre ça ? Il faisait des duplex, en disant voilà, je suis devant le port d'Odessa pour raconter finalement les témoignages qu'on avait eus pendant la journée. On est allé place Maïdan, lui il avait besoin de faire un maximum de témoignages de personnes, ce que je trouve un métier extrêmement difficile, parce que moi je peux me contenter d'être là, observer, sans... quelque part interférer avec le chagrin des personnes qui étaient présentes sur place, ce que je trouve toujours très difficile à faire. Alors emmerder quelqu'un qui pleure parce qu'il ou elle a perdu son conjoint, je trouve ça délicat. Moi, je n'étais pas obligé de le faire. On peut parler discrètement un moment ou simplement écouter des conversations. Lui, il devait aller trouver des personnes et leur demander un témoignage face caméra. Donc effectivement, l'accès à l'image dans un cas concret comme celui-là, c'est très très compliqué.
Mais la guerre, c'est des centaines de moments que les journalistes n'arriveront jamais à expliquer, à transmettre et à faire comprendre. Simplement parce que l'objectif n'est pas de faire du sensationnalisme.
On est allé voir un hôpital. En fait, on est allé avec cette association qui apportait une ambulance à un hôpital de campagne en banlieue d'Odessa. Tout petit hôpital, interdiction dans le papier de dévoiler le lieu, de prendre des photos, etc. Parce que sinon, ça peut en faire une cible potentielle. On arrive dans cet hôpital, on commence à décharger les trucs, voilà, et puis on veut parler à des blessés. Et le directeur de l'hôpital nous dit non. Il y a trop de traumatismes, on veut pas que la presse leur parle. Si vous voulez, on peut vous laisser parler avec des soignants. Et donc on se retrouve assis dans le bureau du directeur, mon collègue et moi, et puis il y a nos deux camarades ukrainiennes qui font de la traduction pour nous. Et rentre un médecin urgentiste, ultra impressionnant, genre très imposant, 2 mètres, une baraque, quoi, un énorme pays, qui a l'air tout timide. Et donc il s'assied en face de nous. Et c'est toujours perturbant parce qu'il y a un décalage, parce que lui parle en ukrainien. Et donc tu vois l'émotion, tu comprends rien à ce qu'il dit. Et donc tu te concentres sur l'émotion de ce qu'il raconte. Et dans un deuxième temps, tu as la traduction. Et donc il raconte son histoire. Il vient de l'oblast de Zaporijja, je pense. Il vient de Boutcha, qui a été copieusement bombardé tout au début de la guerre. Et d'abord, il nous parle en ukrainien. Premier passage, ça va, il raconte un petit peu ce qui se passe, etc. Puis la traductrice finit. Il fait une deuxième partie en ukrainien. On comprend rien à ce qu'il raconte. Et là, pour la première fois, c'était tout à la fin du reportage, on en a fait des interviews marquantes, pour la première fois, la traductrice fond en larmes. malaise parce que on est face à quelqu'un qui raconte son histoire personnelle. On sent une intensité, une tension dans son regard, dans ses mains qui sont crispées. Et c'est encore plus impressionnant parce qu'on voit une espèce de colosse en face de nous avec une toute petite voix toute gentille qui est crispée. On a l'impression qu'il va casser la table devant lui. La personne fond en larmes, la traductrice, et on ne sait pas ce qu'il a dit. Et on reste là comme ça pendant 5 minutes, le temps qu'elle reprenne ses esprits. Et puis elle s'excuse, elle revient s'asseoir sur sa chaise. On voit vraiment tout le travail de reprise, de contrôle, de l'émotion, etc. Et puis elle traduit ce qu'il raconte. Et il dit, j'ai fait construire ma maison à Boutcha. J'ai pu y aller qu'une seule fois. Elle a été bombardée. Et mon frère est encore sur les décombres. Le bombardement a eu lieu au début de la guerre. Et là, tu restes sans voix pendant 2-3 minutes qui ont l'air d'être une éternité. Et c'est hyper impressionnant parce que c'est une histoire parmi des milliers d'autres. Tout est fait dramatiquement. Tu es quasiment dans une scène de cinéma. Quoi. Et tu... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à faire. Tu es face à quelqu'un qui partage ça, qui est neutre comme jamais. Et ça te met face à quelque chose de contradictoire qui est à la fois l'intensité émotionnelle et la dureté cataclysmique d'une guerre et sa banalité. Tu t'es face à quelque chose qui est complètement extraordinaire, à laquelle tu ne peux pas ne pas t'identifier. Et donc, tout à coup, pendant quelques minutes, le monde s'écroule sous tes pieds parce que tu te mets à la place de cet interlocuteur. Et puis juste après, t'as une autre histoire. Puis une autre. Puis encore une autre. Et donc t'es à chaque fois très ému, et puis à un moment, tu t'habitues, t'es toi-même confronté à l'habitude et la banalité de la chose. Puis tu rentres chez toi en Bruxelles quelques jours après, tu vas faire la fête avec tes potes, tu vas boire un coup, ça reste avec toi. Je le revois souvent, ce monsieur-là, parce que c'est un moment marquant. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et ton métier de journaliste, ça va être de raconter ça. Alors moi, j'ai juste l'impression d'être... C'est bizarre de dire ça, mais d'être chanceux d'avoir pu parler à cette personne, d'avoir pu raconter ça. Et une fois que tu le publies, ça t'appartient plus. Et ça changera rien à la vie de ce type-là qui doit toujours être dans son hôpital de campagne, qui répare des jambes et des gens à longueur de journée, qui a perdu son frère et qui est là.
Chanceux, mais la presse écrite reste ingrate. Et même si Valentin Dauchaud écrit 7 doubles pages en l'espace de 8 jours lors de sa seule mission en Ukraine, il garde en tête les failles du journalisme.
Moi, ce qui m'affecte le plus, c'est de voir le peu d'intérêt que la plupart des gens peuvent avoir pour une guerre. C'est cette distance entre, en tant que journaliste, faire une interview de quelqu'un qui a tout perdu et puis en faire un papier qui, en fait, va lui aussi se perdre dans des dizaines, des centaines et des milliers de publications, ça peut être compliqué à un moment. Et en fait, il faut juste rester extrêmement humble et se dire, OK, j'ai eu l'opportunité humaine de rencontrer quelqu'un qui m'a raconté son histoire, qui est terrible, qui est touchante, ou au contraire, qui est extraordinaire et extrêmement emballante et stimulante, et de voir que globalement, tout le monde s'en fout. Ça va peut-être toucher une ou deux personnes. On ne saura jamais. Mais voilà. Il faut avoir une distance et une certaine humilité par rapport à ça et de se dire, aujourd'hui, il y a très peu de retours sur les papiers, par exemple. Donc, l'objectif d'être lu... La question un peu de se dire, est-ce que tu fais ce boulot pour changer le monde ? Si oui, c'est très bien, mais tu ne vas rien changer du tout. Donc, moi, je vois ça comme une opportunité. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens et raconter une histoire. Et je trouve que vraiment, dans le monde dans lequel on vit, raconter une histoire, dure ou positive, est quelque chose de passionnant. Je trouve que si tu demandes 15 minutes à quelqu'un, il faut un papier qui raconte quelque chose d'intéressant, qui soit bien écrit, qui t'emporte vraiment quelque part et qui soit te touche, soit t'informe sur quelque chose, soit te donne les clés d'information qui te permettent de mieux comprendre une situation.
Finalement, ce qui pousse les journalistes à braver les risques, les obstacles et les manques de moyens, c'est avant tout la passion de raconter des histoires. Des histoires qui ne changeront pas le monde, comme le souligne Valentin Dauchaud, mais qui, malgré tout, tentent de faire évoluer les consciences. Oubliez tout, car le journalisme de guerre, ce n'est pas vraiment ça. Rien ne vaut l'histoire d'un correspondant de guerre. Un jeune homme parti seul en Ukraine en 2021, qui ne s'attendait pas à cette vie-là, retrouvez Guillaume Tack dans le prochain épisode de Journalisme de guerre, Les coulisses. Un projet réalisé dans le cadre d'un mémoire en journalisme à l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve.